auditeurs, auditrices de FM+, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions hebdomadaires Vibration FM, nous avons la chance et la joie d'accueillir le professeur André Gounel. André, bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, aujourd'hui, nous allons aborder quelques passages d'un recueil que vous avez écrit au sujet de Paul Tillich, qui est un théologien et philosophe. Ouais. Pour nos auditeurs, pour qui ne le connaissent peut-être pas, je dis juste qu'il est né en 1886 et il est décédé en 1965. Et le thème de notre émission aujourd'hui va porter sur le recueil que vous avez fait autour du thème « Christianisme et judaïsme ». Dans un premier temps, pour que nos auditeurs vous connaissent un petit peu, je vous laisse vous présenter.
Oui, je suis pasteur de l'Église réformée ou de l'Église protestante unie. J'ai été professeur de théologie ici à la faculté pendant 25-26 ans. Je suis maintenant à la retraite.
Très bien, merci. Et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et je crois que la première partie va peut-être parler à nos auditeurs, puisque vous allez partir un petit peu de l'histoire d'Abraham, lorsqu'il a dû partir de son pays.
Voilà, je précise juste avant de commencer que Paul Tillich a fait partie des gens qui ont eu à souffrir du nazisme et qui a dû abandonner son pays, l'Allemagne, quitter son pays, sortir de son pays pour aller aux États-Unis où il a été accueilli. Et pour lui, peut-être éclairé par cette expérience, le cœur du judaïsme, le sens du judaïsme, c'est l'histoire d'Abraham et surtout l'histoire du départ d'Abraham. Voilà qu'un jour, Abraham entend l'ordre, quitte ton pays. Va-t'en, va-t'en de la maison de tes pères, abandonne ta terre, abandonne ta patrie, abandonne les dieux de ton père et va sur les routes vers l'endroit que je t'indiquerai. C'est la voix de Dieu. Et Abraham obéit. Et dans ce récit, Tillich voit une sorte de parabole de l'existence humaine. On pourrait opposer Abraham à Romulus, le fondateur de Rome. Quand Romulus fonde Rome, il commence par construire une palissade, une enceinte. Il s'enferme, il s'enclôt. Ça, c'est le triomphe de l'espace. On fonde sa vie sur son endroit, sur son lieu, sur ses traditions. Abraham, c'est le contraire. Il devient le père du peuple juif, le père d'Israël, mais non pas en fondant, non pas en faisant un espace clos, mais au contraire en passant des frontières, en allant ailleurs. Il ne sait pas très bien où, mais en partant. Et cette histoire est extraordinairement intéressante parce que effectivement, on voit l'opposition entre ce qu'on peut appeler le paganisme. Paganisme, ça vient d'un mot latin qui veut dire paganus et qui veut dire le paysan. Le paganisme, c'est la religion paysanne. Je ne dis pas du paysan, mais la religion paysanne, la religion de sa terre. Et où l'identité, on parle beaucoup d'identité ces temps-ci, mais l'identité, c'est d'être attaché à un lieu, d'être attaché à une tradition, d'être enfermé et d'être isolé des autres. Et en face de cela, on a une autre manière de comprendre l'identité, qui est de sortir de chez soi pour aller vers les autres. Cette opposition, alors on peut dire que peut-être il y a une opposition entre le monde européen, plus attaché effectivement aux lieux, aux endroits, aux bornes, aux barrières, etc., et le monde, comment dirais-je, nord-africain ou arabo-sémite, où ils sont beaucoup plus nomades, où ils exilent, où ils émigrent. C'est vrai, mais ça va en même temps probablement beaucoup plus loin. Et c'est une histoire qui a beaucoup parlé dans les années 30 en Allemagne, au moment où se développe l'antisémitisme hitlérien. On a publié il y a 4 ou 5 ans les cahiers noirs d'Heidegger, du très grand philosophe Heidegger. Les cahiers noirs, c'est des cahiers qu'écrivait Heidegger. Il a demandé qu'on les publie, mais ils n'ont été publiés pour la première fois que depuis relativement peu. Et dans ces cahiers, Heidegger développe une sorte de mise en accusation du judaïsme. Les juifs, disent-ils, ce sont des gens qui sont hors sol, qui n'ont pas de territoire, ils n'ont pas de foyer, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de terreau, de lieu naturel pour s'enraciner. Et ils vont donc créer des mondes artificiels. Alors pour Heidegger, c'est le monde de la technique et c'est le monde de la finance. Et pour Heidegger, c'est un monde qui déshumanise l'homme et contre lequel il faut se défendre. Et Heidegger développe cette idée que l'on trouve alors dans la propagande nazie la plus bête, la plus élémentaire. Mais lui, il le fait à un niveau beaucoup plus philosophique, qu'il faut empêcher cet esprit juif du hors-sol, il faut empêcher qu'il vienne pervertir l'Allemagne. Heidegger est un homme qui est attaché à la terre allemande, à la forêt noire, aux arbres. La quête philosophique, c'est un peu une quête de la racine. Il va très 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 loin jusqu'au monde grec pour aller vraiment à l'origine. Et c'est ça qui est pour lui l'humanité. Alors que Pentélique, pas du tout. Et l'humanité, c'est de savoir précisément sortir de son lieu, de ne pas être enfermé comme un animal sur son territoire, de sortir, d'aller vers les autres, de créer du nouveau, non pas de répéter, mais de créer du nouveau. Et quand Abraham, à l'appel de Dieu, s'en va, il entre dans le temps, il entre dans l'histoire, il échappe à l'espace pour entrer dans l'histoire. Et la vocation humaine, selon Tillich, c'est pas tellement d'affirmer son chez-soi, d'affirmer ici, nous sommes chez nous. Mais c'est de rompre avec les idoles du terroir pour s'ouvrir et à l'ailleurs, pour aller vers toutes les nations. Et ce que Heidegger dénonce comme le fléau, comme une tare maléfique, ça représente pour Tillich une perle de grand prix. Israël, la vocation d'Abraham, la vocation du peuple d'Israël, c'est une perle de grand prix. Alors évidemment, quand Tillich écrit ça, il n'y a pas encore le pays d'Israël, il n'y a pas encore cet État d'Israël. Et la création de l'État d'Israël a posé un certain nombre de questions à Tillich. Il n'a pas désapprouvé, il a dit que c'était tout à fait le droit des Juifs d'avoir un pays, mais qu'il devait se rendre compte à ce moment-là qu'il rentrait dans le jeu des pouvoirs, des contre-pouvoirs, et qu'il devenait une nation comme une autre, et qu'il n'avait plus le droit de se réclamer d'une sorte d'investiture sainte ou d'un ordre, d'une fondation sainte qu'il devait à ce moment-là s'assumer comme un peuple ordinaire, soumis aux mêmes règles, celles de l'ONU dirait-on aujourd'hui, celles du droit international, que les autres pays. Mais dit-il, ce qui est très important, c'est qu'il reste en Israël cette vocation, le sentiment de cette vocation qui est incarnée donc dans Abraham et qui est incarnée aussi dans les prophètes. Une des particularités de la prophétie juive par rapport aux autres prophètes, il y en a dans toutes les religions de l'Extrême-Orient, c'est que le prophète est en train de dire au peuple juif « Attention, si vous manquez à la justice, et à la justice envers l'étranger, à la justice envers l'autre, Dieu vous abandonnera, Dieu vous châtiera ou Dieu vous abandonnera. » Et c'est le seul cas, dit Tillich, alors ça je n'ai pas vérifié, je ne garantis pas du tout qu'il ait raison, mais pour Tillich, c'est le seul cas où l'on voit cette possibilité que Dieu se retourne contre les siens si les siens manquent à la justice. Alors évidemment, ce qui est la vocation d'Israël est pour Tillich la vocation de l'humanité dans son ensemble.
Très bien, nous avons encore quelques minutes avant la pause. Est-ce que cette notion de réalité d'Abraham à cette époque ne résonne pas avec une certaine réalité que nous rencontrons aujourd'hui aussi et que beaucoup de peuples rencontrent ?
Alors absolument, on dit que le grand problème du monde moderne, on dit que le problème qui domine ou qui est en arrière-fond de la campagne électorale actuelle, c'est le problème de l'identité. Où est notre identité ? Est-elle sur notre sol ou est-elle dans un projet ? Déjà au XIXe siècle, dans une page célèbre, Ernest Renan disait que une nation, c'est un passé commun, mais c'est une volonté de faire des choses en commun. Et c'est beaucoup plus cette volonté qu'appellerait Tillich. Et nous avons un énorme problème d'identité, de savoir où situer l'identité dans un passé plus ou moins mythisé, dans un pays que l'on veut être le sien, que l'on veut posséder, ou bien notre identité est-elle d'être des nomades, des gens qui cheminent, des gens qui marchent, des gens qui vont vers un ailleurs. Il ne s'agit pas de mépriser le territoire, mais il s'agit de ne pas être emprisonné dans le territoire, de ne pas devenir l'esclave du territoire. Et de ce côté-là, à la pause, on va entendre le cœur des esclaves de Nabucco, qui m'a semblé être illustré assez bien ce thème, hein, sortir de l'esclavage, c'est-à-dire sortir du pays. Pour les anciens Hébreux, après l'histoire d'Abraham, il y aura la sortie de l'Égypte, et puis il y aura l'exil et le retour de l'exil. C'est un thème constant. Tillich dit un peu que la diaspora, la dispersion, c'est la vocation du peuple juif et c'est peut-être la vocation de l'humanité. Non plus d'être des groupes compacts, mais d'être des groupes dispersés, c'est-à-dire mélangés avec d'autres dans une sorte de métissage universel.
Nous allons donc avoir la pause musicale et nous retrouvons le professeur André Gounel après cette pause musicale.
Quand tu chantes, je chante.
Quand tu chantes,
Nous retrouvons le professeur André Gounel avec lequel nous abordons quelques passages qui ont été écrits par le théologien et philosophe Paul Tillich dans les années 1938 à 1959. Et nous abordons son livre « Christianisme et judaïsme ». Donc nous avons abordé dans la première partie la question de du départ d'Abraham, de son pays.
Oui, du sens du judaïsme à travers l'histoire d'Abraham.
Voilà, du sens du judaïsme. Et maintenant, vous allez peut-être plus aborder la question du christianisme et du judaïsme, voilà. Puisque Paul Tillich était théologien et philosophe. Voilà. Donc il y a des approches intéressantes.
Alors c'est vrai que Tillich réfléchit, écrit à un moment qui est tragique, dramatique pour les Juifs, avec tout ce qui s'abat sur eux, avec la Shoah, avec toutes les persécutions qui s'abattent sur eux, et puis aussi avec la création de l'État d'Israël. Une histoire auquel, en particulier celle de la persécution, auquel il est lié. Quand Tillich fait des émissions de propagande sur l'Allemagne en 1943, qui sont diffusées par les Américains vers les Allemands, sa première émission, c'est la question juive. Il met d'abord l'accent dessus. Alors, les relations entre le judaïsme et le christianisme sont des relations qui ont été difficiles, qui ont été souvent conflictuelles. Pour Tillich, il est tout à fait clair que lorsque le christianisme a été persécuteur vis-à-vis des juifs, quand il a attaqué les juifs, quand il s'en est pris aux juifs, il s'est attaqué à lui-même. Il s'en est pris à lui-même. Qu'il y a une sorte de solidarité. Et il dit à ses interlocuteurs allemands, ne vous faites pas contre une certaine propagande qui avait lieu, qui avait cours à cette époque en Allemagne. Quand les nazis s'en prennent aux juifs, ils s'en prennent aux chrétiens. C'est exactement la même chose. Ne vous laissez pas tromper par les propagandes. En fait, de manière plus profonde, plus théologique, on peut voir deux attitudes vis-à-vis du judaïsme et vis-à-vis de l'Ancien Testament dans le christianisme. Il y a une première attitude pour laquelle le christianisme, c'est la fin du judaïsme. Il a pris la place du judaïsme. Et donc le judaïsme a rempli une mission historique, mais cette mission est terminée. Et maintenant, c'est le christianisme. Et finalement, le christianisme n'a pas besoin du judaïsme. Alors, on voit ça très tôt dans l'histoire avec un dénommé Marcion au second siècle, qui, j'allais dire, il ne réécrit pas la Bible, c'est pas vrai, mais il la découpe. Et il enlève tout l'Ancien Testament, et il enlève dans le Nouveau Testament tous les passages qui ont trait aux Juifs. C'est plus la peine, c'est dépassé, c'est un régime ancien. On voit d'ailleurs un peu ça chez Luther, et on fait beaucoup l'éloge de Luther, mais Luther a des côtés noirs, sombres, beaucoup plus qu'on ne le dit quelquefois, à côté de côtés lumineux, hein, pas question de nier. Et pour Luther, le judaïsme, c'est l'obligation, c'est la loi, c'est les 10 commandements, c'est cette loi qui condamne. Et puis l'évangile apporte le pardon de Dieu. Et une fois qu'on a la grâce, qu'on a le pardon de Dieu, la loi, on n'en a plus besoin, elle ne sert plus à rien. Il y a donc et du coup, quand les Juifs ne se convertissent pas à la réforme, Luther se met dans des colères épouvantables et écrit des textes dont on a honte contre le judaïsme. Alors ça, c'est une première attitude. Et puis, il y a une seconde attitude qui considère qu'entre le christianisme et le judaïsme, il y a une continuité, une solidarité étroite. Alors ça, on le trouve dans le protestantisme, fortement chez les réformés. Et par exemple, quand Jean Calvin, le grand docteur du courant réformé, pas le fondateur, mais le grand docteur du courant réformé, parle des prophètes, il les met exactement sur le même plan que les apôtres. C'est la même chose. Hein. Et pour ce courant réformé, l'Évangile ne supprime pas la loi, mais il vient donner la force de l'accomplir. Et dans les cultes réformés, on lit ou on lisait fréquemment la loi, non pas comme une obligation, mais comme ce que Dieu nous permet de faire. Alors, Potélix, ce qui domine, c'est pas la rupture, c'est la solidarité. Bien entendu, il y a des différences, et il n'est pas question de les nier. Et Tillich dit souvent que dans ses discussions avec ses amis juifs, il y en a eu qui étaient très proches, sa femme était du juif d'ailleurs, et puis il a des amis extraordinairement proches, il était très lié aussi avec le philosophe et théologien juif Buber, qu'il y a bien sûr une différence, et il y a une différence autour de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé autour du Christ, est-ce que c'est vraiment l'événement décisif, comme disent les chrétiens, ou est-ce que ça ne peut pas être, comme disent les juifs, un événement décisif, puisque le monde n'a pas été transformé, puisqu'il n'a pas rempli le programme messianique. Alors là, il y a une différence qui, effectivement, est profonde, mais à côté de ça, il y a une très grande solidarité. Une solidarité qui s'est manifestée sur le plan académique, sur le plan universitaire, dans la lecture commune de la Bible, où les savants juifs et les savants chrétiens se sont mutuellement entraidés, mais une solidarité de dialogue. Et pour Tillich, le judaïsme est toujours une interpellation pour le christianisme. Il est en débat avec lui, et dans ce dialogue, chacun des partenaires a des choses à apporter à l'autre. Mais le judaïsme est surtout ce qui vient rappeler ce que je disais tout à l'heure, juste avant la pause, cette affirmation prophétique que nous ne sommes pas possesseurs de Dieu, mais que Dieu nous appelle à la justice, et que si nous manquons à la justice, nous ne sommes plus, nous ne pouvons plus nous considérer vraiment comme enfants de Dieu. Et c'est un rappel qui rappelle contre l'idolâtrie, contre ce Dieu que l'on s'approprie. Et ce rappel est absolument nécessaire, à tel point que Tillich dit qu'il récuse la mission auprès des Juifs. Il ne faut pas convertir les Juifs au christianisme, il faut que les Juifs gardent leur voie spécifique. Il dit ça en tant que chrétien, il dit qu'il appartient aux Juifs de dire ce qu'ils reçoivent du christianisme et que ce n'est pas à lui à le déterminer. Il y a une solidarité qui est fondée sur l'identité du Dieu, sur la même conception, sur la même vision de Dieu, qui est fondée sur un monothéisme, mais un monothéisme qui n'est pas un monothéisme exclusif, mais qui est un monothéisme universel. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la propriété d'un peuple ou d'une religion qui aurait du coup à l'imposer à toutes les religions du monde, mais que Dieu est le Dieu de toutes les religions, il est pour tout le monde, et pas seulement pour les siens. Et puis cette idée que le Dieu est celui de la justice, de la rectitude, de la droiture. Il n'est pas un Dieu qui donne des privilèges, qui donnerait des privilèges à son église ou à son peuple. Et l'élection, cette idée que Dieu choisit quelques-uns, c'est pas du tout le privilège donné à certains, mais c'est une mission qui leur est donnée pour rappeler ce Dieu qui est pour tous. Et puis, autre solidarité, cette idée que Dieu se manifeste non pas ailleurs, non pas dans un monde éthéré, non pas au ciel, qu'il se manifeste même pas dans la nature, enfin, il se manifeste dans la nature, mais que là où est sa manifestation essentielle, c'est dans l'histoire, c'est-à-dire dans des événements et dans des personnages particuliers. Mais à ces événements et à ces personnages, Dieu donne une valeur universelle. On pourrait dire qu'on a partagé nos héros avec les autres, et non pas à les garder pour nous-mêmes. Donc l'intervention décisive de Dieu est dans l'histoire, et son intervention, c'est cet appel à ce que le Nouveau Testament appelle le royaume de Dieu, c'est-à-dire à un monde pacifié, réconcilié, à un monde où, au fond, l'homme peut être vraiment humain. On parlait d'identité, le problème de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à être vraiment humain. Et puis, il y a aussi une solidarité dans une même conception de la foi. Et alors ici, Tillich se réfère beaucoup, beaucoup à ce très grand penseur qu'est Martin Buber. La foi comme une relation je-tu, une relation personnelle, une relation existentielle avec Dieu et avec le prochain. Considérer l'autre comme un tu, c'est refuser d'en faire un objet. Considérer Dieu comme un tu, c'est ne pas réduire la religion à des croyances ou à des rites. C'est la religion, c'est vivre avec. Religion, une des étymologies possibles du mot religion, c'est relier, c'est le lien avec. C'est donc pas un ensemble de doctrines et de rites, c'est vraiment ce dialogue constant, quelquefois difficile, quelquefois plus facile, mais ce dialogue constant du croyant avec Dieu. Et c'est cette tension, ce refus de la relation je-cela, c'est un peu la relation qui domine dans la société technique, où on est des pions, où on considère l'autre comme le rouage d'une machine. Ça se voit constamment dans l'entreprise, dans l'État, dans l'administration, etc. Et à la place d'une relation je-tu qui prend l'autre vraiment comme autre, comme un sujet avec lequel je suis en relation. Et Tillich estime, et pour lui c'est une évidence, que quand on compare, quand on va voir dans les autres religions, à la fin de sa vie, Tillich s'est beaucoup occupé du dialogue avec les religions, qu'il y a une sorte là d'unité, de tradition, de religion judéo-chrétienne assez différente de ce qu'on trouve ailleurs. C'est pas pour dire qu'ailleurs ça n'a pas de valeur, au contraire, Tillich sera très attentif à ce que peut apporter le bouddhisme. Il s'occupe pas de l'islam, c'est comme ça, l'islam n'est pas dans son horizon. Par contre, aux États-Unis, le bouddhisme est très présent et il a beaucoup dialogué avec, mais qu'il y a là une sorte, par rapport au judéo-christianisme, judéo-juifs et chrétiens font partie de la même famille sans être identiques. Les bouddhismes, c'est une autre famille qu'il faut respecter, qu'il faut écouter, qu'il faut essayer de comprendre, mais c'est quand même une autre famille, tandis que judéo-christianisme, c'est vraiment la même famille.
Voilà, sur le peu de temps qui nous reste, une seule question, André. Nous sommes à une époque où les religions sont mises à mal. Or, avec le message que vous nous transmettez, on pourrait voir autrement les religions.
Oui, c'est d'ailleurs un des points sur lequel Tillich a beaucoup réfléchi, auquel nous réfléchissons aussi beaucoup. En Occident en particulier, la religion est devenue une sorte d'appareil. Et un appareil avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Et il est très important de s'apercevoir que le Christ dépasse le christianisme, que le christianisme ne s'annonce pas lui-même, il annonce autre chose, le Christ, et que si la religion essaie, c'est vrai, de rendre témoignage à Dieu, elle rend témoignage, elle n'est pas divine elle-même. Que nos manières de comprendre Dieu, de vivre Dieu, de parler de Dieu, de rendre un culte, ne sont pas divines, même si elles parlent du divin.
Merci beaucoup, André Gounel. Et je termine en vous redonnant le titre de ce livre, « Christianisme et judaïsme », écrit par Paul Tillich, T-I-L-I-C-H, aux éditions Labor et Fides. Merci beaucoup et à samedi prochain. Au revoir, André.
Au revoir.